France Inter. Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 un professeur d'histoire et de sociologie politique, directeur du Centre d'histoire de Sciences Po à Paris, grand spécialiste de l'Italie. Il publie avec Ilvo Diamanti « Peuplocratie » chez Gallimard, qui sera en librairie, ce jeudi. Bonjour Marc Lazare.
Bonjour.
Ce livre est une analyse fine du phénomène populiste qui se porte si bien en Europe et ailleurs dans le monde. Le terme « populisme » n'étant pas totalement satisfaisant, vous cherchez à mieux le cartographier en vous appuyant sur la France et l'Italie. On va y venir. Et vous proposez donc « Peuplocratie » pour cerner la dynamique, la nature, le style, la nouveauté de ces mouvements regroupé sous le terme « populisme », je mets des guillemets. Alors, qu'est-ce que la peuplocratie? Pourquoi, Marc Lazare, fallait-il un nouveau mot pour mieux comprendre ces phénomènes politiques?
Mais je crois qu'il y a des phases historiques où il faut parfois inventer des nouveaux mots pour essayer de comprendre ce qui est en cours. Alors, la comparaison que je vais faire n'est pas appropriée avec ce temps d'aujourd'hui, mais dans les années 20-30, un certain nombre d'intellectuels, de penseurs, de responsables politiques ont forgé la notion de totalitaire pour comprendre des nouveaux régimes qui étaient en train de se mettre en place ou qui étaient mis en place en Russie, la Russie communiste, en Italie fasciste ou en Allemagne nazie. Alors, la peuplocratie n'a pas encore triomphé. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? L'idée, notre idée avec Ilvo Diamanti, c'est de déplacer le regard, de pas analyser simplement, il faut toujours le faire, ce qu'on appelle les populistes, mais de voir l'influence, l'impact qu'ils ont d'ores et déjà sur nos démocraties. Parce qu'effectivement, ces mouvements, ces partis, imposent leur thématique, leur forme d'organisation, leur style politique, au point de transformer la démocratie autour d'une idée simple, la souveraineté illimité du peuple. Et par conséquent, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, mais avec une série de contre-pouvoirs. Or, aujourd'hui, ces contre-pouvoirs sont en train d'être explosés par le type de proposition populiste et, en plus, grâce à cette transformation technologique que les populistes ont comprise, qui est celle des réseaux sociaux.
On va parler de tout ça. Vous allez nous expliquer pourquoi vous dites aujourd'hui que les néo-populistes incarnent la modernité, grâce notamment aux réseaux sociaux. Mais vous expliquez dans le livre que l'Italie a inventé le fascisme dans les années 20, dans un registre différent et plus près de nous, elle a aussi inventé une modalité de la démocratie contemporaine avec ce que vous appelez le berlusconisme. À ce titre, vous dites que l'Italie est devenue un laboratoire et même un sismographe politique. En quoi? Expliquez-nous.
Eh bien parce qu'on a toujours considéré jusqu'ici l'Italie comme un pays anormal, une démocratie anormale. Et mon idée depuis très longtemps, c'est de penser qu'au contraire l'Italie enregistre la première des secousses parce qu'il y a une certaine fragilité de ce pays. C'est une démocratie récente parce qu'il y a un corps social particulièrement divisé, par exemple entre le Nord et le Sud, parce que justement les valeurs démocratiques se sont instillées, se sont maintenant enracinées dans ce pays, mais toujours avec une certaine fragilité. Et donc au lieu de voir cela comme quelque chose d'exotique, il faut le prendre comme un signe annonciateur. Et vous avez pris deux exemples, effectivement, que nous prenons dans le livre, le fascisme dans les années 20, qui a inspiré beaucoup de personnes et beaucoup d'acteurs politiques dans le monde entier, le berlusconisme qui a introduit cette transformation fondamentale qui est liée à l'usage de la télévision et à un certain type de populisme qu'a incarné Silvio Berlusconi. Et aujourd'hui, cette alliance qui est au pouvoir, le mouvement 5 étoiles et la Ligue.
Et puis vous écrivez que la France et l'Italie sont deux pays où le libéralisme politique est faiblement implanté. Alors, en tant que Français, on est tout à fait prêt à l'admettre pour l'Italie, mais en tant que Français, toujours, on a nettement plus de mal à le concevoir ici, pour nous, en République. Alors, là encore, un mot d'explication.
Ben, oui, justement, parce que en général, on oppose ces deux pays, et nous, en prenant ces deux pays, en les comparant, on voit plus de points communs que de différences. Bien sûr, il y a des différences, l'histoire française par définition, la structure sociale, les institutions, le mode de scrutin, mais au total, nous sommes confrontés dans les deux pays, et plus généralement en Europe, car nous prenons ces deux pays comme des cas exemplaires en quelque sorte, on voit à peu près les mêmes processus se dérouler en Europe. Alors oui, le libéralisme est relativement faiblement implanté en France. Il a deux caractéristiques. D'une part, lorsqu'il y a des libéraux, ils pensent que le rôle de l'État doit être fondamental. C'est une particularité française. Et par ailleurs, il y a, et je trouve qu'on le voit actuellement avec, entre autres, le mouvement des Gilets jaunes, il y a cette idée, cette pesanteur, ce poids, cette importance, cet héritage des transformations par la violence et par la dimension révolutionnaire. Et ça, c'est absolument frappant en France, et c'est ce qui étonne beaucoup de nos amis étrangers.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous écrivez, c'est, vous dites, le populisme ne constitue pas seulement un défi pour nos démocraties, mais il est devenu une composante essentielle de la démocratie. Est-ce à dire, Marc Lazare, qu'on ne peut plus faire de la politique aujourd'hui, en France ou ailleurs, sans une dose de populisme?
Et bien, c'est exactement la question qu'on se pose, et ma réponse est oui. Oui, parce que la populocratie est peut-être en train de triompher. Alors, c'est une phase intermédiaire, c'est une potentialité, c'est une dynamique, mais on peut prendre des exemples très concrets.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de la politique sans être populiste. Alors, un peu populiste.
Exactement, on peut prendre deux exemples. Deux exemples, hein, en Italie et un en France. En Italie, Matteo Renzi, qui est évidemment sur le fond un antipopuliste. Il est pro-européen, il est respectueux de la démocratie libérale et représentative, mais il a eu besoin de se présenter comme un rotomatore en italien, c'est-à-dire je casse tout, et d'essayer de parler directement au peuple. Ça lui a coûté très très cher d'ailleurs, parce qu'il a perdu toute sa popularité après un grand moment, dans un premier temps justement de popularité. Et le deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est effectivement la France avec Emmanuel Macron. Mais oui, et je sais que ça choque beaucoup en France quand
oui,
on dit ça.
C'est contre-intuitif.
C'est contre-intuitif dans le sens que, évidemment, Emmanuel Macron, on le voit bien actuellement, d'abord au cours de la présidentielle avec le fameux débat contre Marine Le Pen, aujourd'hui confronté au défi justement du mouvement des Gilets jaunes. Il n'est pas populiste sur le fond, mais pour gagner, comment il s'est présenté? Comme le candidat anti-système. Alors, il disait anti-système politique parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Et ça, ça a été un élément important de sa campagne. Et quand vous lisez, je crois qu'on n'a pas assez lu son livre qui s'appelle Révolution, il y a un chapitre absolument fondamental qui est la critique systématique des partis politiques et des corps intermédiaires. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a pratiqué durant à peine élu. Et donc, effectivement, aujourd'hui, pour gagner les élections, même ceux qui veulent combattre les populistes sont en train d'utiliser un style populiste, qui renvoie à la définition qu'on donne du populisme. En gros, il y a deux grandes, dans cette énorme production sur le populisme, il y a deux grandes sensibilités. Ceux qui pensent que c'est une nouvelle idéologie. On a connu le communisme, le socialisme, le conservatisme au 19e, au 20e siècle. Il y aurait aujourd'hui le populisme, fut-il une mince idéologie. Et puis il y en a d'autres, comme moi et d'autres chercheurs, qui pensons que c'est un style politique. Et nous pensons avec Ilvo Diamanti que c'est un style politique qui soit peut se mêler avec d'autres courants politiques, y compris celui aujourd'hui de la République en marche, celui du Parti démocrate en Italie, ou être un style politique en lui-même, une sorte d'épure qui se caractérise justement, qui s'exprime par exemple par le Rassemblement National, la France Insoumise en France,
sur la France
etc.,
Insoumise,
etc.
Vous citez les travaux de la philosophe Chantal Mouffe sur le populisme de gauche et le fait que Jean-Luc Mélenchon non seulement assume le terme mais le revendique. En quoi c'est un changement majeur de dire populiste? Oui, je suis populiste de gauche.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle en sociologie, excusez-moi, sans ce petit matin de faire cette allusion, l'inversion du stigmate. Tu me traites de fasciste, je suis fasciste. Et là, c'est exactement cela. Tu me traites de populiste, je suis populiste et j'assume. Et effectivement, Jean-Luc Mélenchon et tous les autres aujourd'hui assument le fait d'être populiste. Et du coup, c'est une des transformations de ces nouveaux populismes par rapport à ceux que l'on a connus. Parce qu'on a connu des populismes, on le rappelle dans le livre, historiquement depuis le 19e siècle. Mais très souvent, c'était des pulsions relativement passagères, des accès de fièvre qui s'estompaient assez rapidement. Ici, c'est durable. Et surtout, les populistes aujourd'hui, à la différence du passé, se disent les meilleurs défenseurs de la démocratie. Ils disent, nous représentons, nous incarnons le peuple, et vous, les autres partis, vous avez peur du peuple. Donc oui, je suis populiste en ce sens-là.
À quel moment le mot populiste n'est plus devenu un gros mot?
Je crois que ça se passe depuis 4-5 ans. Quand vous regardez la cartographie des populismes européens, cette revendication d'être populiste se développe à partir des... Oui, il y a 4-5 ans, où on voit effectivement qu'on assume d'être populiste quand on l'est.
Expliquez-nous ce paradoxe, Marc Lazare, qui fait que ces mouvements qu'on pourrait croire fondés sur une définition archaïque au fond de l'organisation politique, le peuple moins toutes les institutions, peut devenir aujourd'hui une incarnation de la modernité, voire de l'hyper-modernité en politique.
Parce que je crois que pour deux raisons. D'une part, parce que justement ces populistes aujourd'hui ne se présentent plus comme des adversaires de la démocratie, comme dans les années 20 ou 30, où ils voulaient détruire la démocratie. Ça, c'est une rupture fondamentale. Ils se présentent comme les meilleurs défenseurs de la démocratie et ils sont à la croisée de ce double processus qu'on voit dans nos sociétés, à la fois de défiance à l'égard de la politique, tous pourris, tous corrompus, et à la fois la volonté de rénover la politique et d'y participer. Et en ce sens-là, du coup, les populistes qui ont souvent été des mouvements nostalgiques, le retour à un âge d'or, et cette caractéristique est toujours présente dans les populismes d'aujourd'hui, ce sont des populistes qui essayent de se projeter dans le futur en essayant, en tout cas en proposant un récit qui essayent de montrer qu'eux aussi sont porteurs d'une forme de modernité démocratique et en partie particulier technologique, en particulier, encore une fois, avec les réseaux sociaux.
Ça change tous les réseaux sociaux par rapport à l'usage berlusconien de la télévision ?
Oui, pour une heure. Et ça, c'est la transformation fondamentale qui s'est déroulée en quelques années. La télévision de Berlusconi, ça va du haut vers le bas. C'est l'émanation dans un studio de télévision en direction du peuple. C'est ce à quoi a joué Berlusconi du fait qu'il possédait la moitié du paysage audiovisuel. Certains ont appelé ça la télécratie. Moi, j'avais pas retenu à l'époque cette notion-là parce que je ne pense pas que Berlusconi a gagné uniquement par son pouvoir télévisuel. Mais c'est une forme de communication comme la presse classique qui va de la part d'un certain nombre de personnes qui font cette télévision vers le peuple. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est bottom-up, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, ça part de la société et ça monte vers le haut. Et les populistes, quand vous examinez effectivement leur action, ont compris les premiers cette transformation technologique. Les partis traditionnels, les partis de gouvernement sont en train de découvrir l'impact considérable, l'influence considérable de ces réseaux sociaux qu'avaient intuit, qu'avaient compris les premiers ces mouvements populistes.
C'est un moment populiste qu'on est en train de vivre. Ce style populiste, à votre avis, il est durable ou on va devoir s'y habituer et dans 5 ans, 100 ans, on sera toujours dans ce style populiste.
Alors ça,
vous n'avez pas votre boule de cristal, vous allez me dire, mais à votre avis.
Mais je crois que c'est un moment important, évidemment, parce que justement, il n'est pas simplement un moment d'accès de fièvre, il s'installe dans la durée. Regardez qu'est-ce qui se passe. Les premiers mouvements populistes commencent dans les années 80. Il y a la deuxième rupture, si on fait une histoire, en France, c'est 1983-84 avec les débuts du Front National. 1989, la fin du mur de Berlin, et du coup, ça libère un espace politique absolument considérable. 2001, le 11 septembre 2001, je crois qu'on n'a pas pris assez en considération le fait qu'il y a cette peur de l'islam qui commence à s'instaurer dans les opinions publiques que vont utiliser un certain nombre de ces populistes. Tous ne sont pas les mêmes, on fait des distinctions dans le livre. 2007-2008, la crise économique, financière et économique. Et puis, plus récemment, la crise des migrants. Et donc, on a une durabilité qui n'a jamais existé dans le passé de ces mouvements populistes. Il y a une ampleur, une diffusion mondiale. Donc, c'est un moment populiste. Et quand on parle de peuplocratie, il y a deux possibilités d'issue. La première, c'est, et je trouve que nous sommes en plein dedans en France actuellement, où la capacité de la démocratie libérale et représentative de trouver des solutions, d'absorber à la fois cette charge de contestation et de proposition, c'est-à-dire on veut participer à la politique, et si ce n'est pas le cas, eh bien l'étape suivante pourrait être ce que l'on appelle, par exemple, dans les pays comme la Hongrie et la Pologne, la démocratie libérale. Donc il faut être bien conscient de ce moment, d'après nous, crucial dans lequel nous sommes. La peuplocratie n'a pas encore gagné, elle est une potentialité, elle est une dynamique, elle est un défi, et donc il faut sortir de cette situation.
Encore un mot, Marc Lazare, avant de donner la parole aux auditeurs de France Inter. On a l'impression qu'il y a aussi un phénomène nouveau et important. Il n'y a plus de rupture entre la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir. Tout le monde pensait que Donald Trump, notamment ceux qu'il avait défait dans les urnes, arrivait à la Maison Blanche, allait buter sur le réel, qu'il serait obligé de revoir ses affirmations de campagne en disant bon, c'est plus possible, il va falloir composer. Eh bien, pas du tout. Il fait exactement ce qu'il a promis. Comment on analyse ce phénomène-là ?
Je crois que c'est effectivement très important et vous pourriez utiliser deux autres exemples. Orban en Hongrie, qui est extraordinairement populaire et se fait réélire, et le gouvernement italien actuel, qui est le gouvernement le plus populaire de toute l'Union européenne depuis qu'il est en place, c'est-à-dire depuis le 1er juin.
Comment vous expliquez ?
Alors,
ça,
justement,
c'est vraiment
la question. Mais vous avez tout à fait raison, Léa Salamé. C'est la question des questions et je pense qu'il y a deux choses. C'est que, en tout cas, je m'appuie sur les enquêtes que nous avons en Italie, mais je crois qu'on peut l'étendre. Ces personnes qui sont aujourd'hui au pouvoir apparaissent comme neuves, tranchant avec le passé. Et donc, il y a cette aspiration à une rupture, à une transformation complète. Et deuxièmement, ils essayent, pense-t-il, l'opinion, ils essayent de faire ce qu'ils ont dit. Et même si ça se heurte à des contradictions, même si ça n'est pas pour le moment couronné de succès, ils ont ce crédit politique. Et ça, c'est un élément tout à fait important. Vous avez raison, Nicolas Demerand, ils peuvent arriver au pouvoir, ils font ce qu'ils disent, et ils gardent et ils conservent une popularité.
Jusqu'à nous, quand... au moins, on fait ce qu'on dit.
Exactement.
Et ce qu'on
promet. Exactement. On a fait un certain nombre de promesses, et à la différence des autres, nous agissons. Alors, on rencontre des difficultés. Comment expliquer alors ces difficultés ? Il faut trouver trouver des boucs émissaires. Et ces boucs émissaires, ça peut être les étrangers, ça peut être l'Union européenne, ça peut être les juifs, ça peut être les... Voilà. Il y a une multitude de boucs émissaires au sens de la théorie de René Girard. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Ou les médias, par exemple, qui sont accusés justement de ne pas rendre compte de la qualité du travail fait par ces gouvernements. Donc oui, c'est et ce qui montre, et ça renvoie à une grande question, qui est la profonde défiance politique qui existe dans presque toutes les démocraties et qui fait que les acteurs nouveaux ou qui se présentent comme nouveaux ont ces crédits politiques.
Allez, on file au standard. Première question. Missia, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Est-ce que je pourrais vous chanter quelque chose pour les forces de police? Si on n'avait pas supprimé l'histoire, peut-être que les policiers qui tirent sur les manifestants avec des LBD pourraient se rappeler ça.
Allez-y, allez-y.
Salut, salut à vous, braves soldats du 17e. Salut, brave piou-piou, chacun vous admire et vous aime. Salut, salut à vous, à votre geste magnifique. Vous auriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
Alors, Missia, après le couplet, la question...
Eh bien, ma question est que chaque fois que j'entends que les gueux sont dans la rue pendant que leur président va au ski et pendant que le ministre de la police va dans les boîtes de nuit, eh bien, et que nous, on va dans la rue, eh bien, on nous traite de populistes. Et ça, je trouve ça absolument, il n'y a pas de mot plus stigmatisant pour traiter les gens du peuple.
Bien
moi,
compris.
Je suis handicapée, je peux quand même marcher, donc je vais aux manifestations quand je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Eh bien là, je ne peux plus y aller. Et là, on me traite, on va nous traiter de populistes, de gens qui vont piller les magasins. Moi, j'ai jamais rien volé.
Merci, allez. Missia, merci pour cette question. Marc Lazare répond à l'ensemble de l'intervention.
C'est une très belle chanson du mouvement ouvrier qu'a chanté cette auditrice. C'est effectivement une chanson de la fin du 19e siècle, d'une révolte des vignerons dans le sud de la France. Alors, à l'époque, effectivement, l'armée ou la gendarmerie tirait sur les manifestants. À ma connaissance, Dieu merci, nous n'en sommes pas là. Alors, je n'ai pas dit que l'ensemble des gens qui manifestent sont des populistes. Je distingue les mouvements politiques des personnes qui vont manifester. Cela dit, et j'aborderai peut-être que beaucoup d'éditeurs ne seront pas d'accord, je pense qu'actuellement, avec les Gilets jaunes, il y a au moins deux aspects. Le premier, qui est les séries de revendications sociales que beaucoup peuvent considérer comme légitimes, qui est lié effectivement à la situation de détresse de beaucoup de Français, incontestablement, sur les questions de revenus, sur les questions du prix de l'essence, sur les questions d'accès aux services publics, etc. Mais il y a aussi un certain type d'aspiration, de revendications qui sont avancées, ou de propos qui sont tenus, qui, d'après moi, montrent justement ce qui rentre dans la catégorie populiste. Et pour moi, chère madame, quand je utilise l'expression populiste, elle n'est absolument pas stigmatisante. Je cherche à comprendre ce que ça veut dire.
Non, mais c'est populaire par rapport à populiste. Oui, un mouvement populaire n'est pas un mouvement populiste. Bah, c'est ce
exactement.
Que dit Missia aussi.
Et elle a tout à fait raison. Mais
si ce n'est quand on veut le stigmatiser.
Alors, d'une part, et d'autre part, quand on tient un certain nombre de propos. Et dans le propos de cette auditrice, partagé par beaucoup de gens, il faut prendre conscience de ce que cela veut dire. Opposer les gueux, avec l'utilisation de ce mot, pour parler des manifestants, une partie de ces manifestants, une partie de la France, une partie du peuple, ceux qui manifestent prétendent être le peuple, mais c'est une partie du peuple. Le peuple, par définition, est divers. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'opposition entre les gueux et les dirigeants qui vont en boîte de nuit, qui vont au ski, et donc cette opposition entre une classe dirigeante qui serait par définition corrompue, riche, et qui ne s'intéresserait pas justement aux souffrances du peuple, ça, c'est une dimension populiste, plus la résolution de tous les problèmes par une procédure qui est la plus simple, qui est le référendum.
On a des questions là sur le standard, on va y venir.
Juste une question, la position de certains, et notamment à l'extrême gauche, de dire, depuis le début de la crise des Gilets jaunes, que la violence est inhérente à la marche de l'histoire et que, au fond, il faut de la violence pour se faire entendre. Est-ce que c'est nouveau?
Non, c'est pas nouveau et c'est une grande caractéristique française, historique. Ça, c'est incontestable et déjà, on l'avait vu au mois de décembre, un certain nombre d'intellectuels ont pris parti pour expliquer que la violence populaire est légitime par rapport à la violence de la domination. La violence de la domination, c'est la violence sournoise, la violence cachée qui fait que justement le peuple ne se révolte pas. Donc on a raison de se révolter. Et ça en France, c'est une grande tradition liée à notre histoire révolutionnaire, liée au fait qu'on a cet héritage de la Révolution française, et régulièrement cela ressurgit. C'est l'idée que la violence est accoucheuse de l'histoire. C'est un mixte, un mélange entre une tradition révolutionnaire française, une tradition aussi marxiste. Engels a écrit un livre très célèbre sur la violence accoucheuse de l'histoire. Et un certain type, et là je fais très attention parce que je vais être réducteur et je vais me faire assassiner par tous mes collègues sociologues, un certain type de simplification, je dis bien de simplification de la sociologie critique de Pierre Bourdieu en France. Bon, mais encore une fois, de simplification. Et donc oui, on a raison de se révolter, mais Léa Salamé, dans les années 70, les maoïstes français soutenaient un mouvement hyper corporatiste de petits commerçants et d'artisans que tout le monde a oublié, dirigé par un homme qui s'appelait Gérard Nicou, qui faisait des actions violentes, et puisqu'on a raison de se révolté, on pouvait aussi soutenir un mouvement de ce type-là. Donc voilà, ça aboutit à ce type de posture et de position.
Zachary est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Nicolas, bonjour Monsieur Lazare. On vous parlait tout à l'heure du référendum et on entend donc cette critique qui le défend. On entend aussi parler de démocratie participative, représentative. Est-ce que vous voyez ça justement comme un moyen de remettre un pied des citoyens dans la démocratie représentative qu'on connaît, ou est-ce que justement c'est une première victoire pour cette peuplocratie pour effacer les intermédiaires?
Merci Zachary. Marc Lazare vous répond.
Oui, c'est une bonne définition. Je crois qu'il faut être très prudent là-dessus. Si on ne pense qu'on peut résoudre toutes les questions de la démocratie par le seul instrument du référendum, je crois que là, non seulement on commet une erreur, on procède à une simplification, mais on est dans cette procédure de démocratie directe, c'est-à-dire de substitution de la démocratie libérale et représentative. La démocratie participative, c'est une autre chose. On peut très bien inventer des pratiques justement de délibération, de référendum, avec un certain nombre de limites et de contre-pouvoirs, et je pense même que c'est une des solutions pour sortir de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, je crois que beaucoup de gens sont d'accord là-dessus, il y a une forme, on ne peut plus accepter uniquement les règles de la démocratie libérale et représentative telles qu'elles sont aujourd'hui en vigueur. Il y a une forme d'essoufflement historique dans tous les pays de cette démocratie libérale et représentative. Pourquoi ? Parce que justement il y a cette colère sociale, mais aussi tout simplement parce qu'il y a une élévation formidable du niveau d'instruction, de connaissance des populations qui ne veulent pas s'en remettre uniquement à pouvoir voter une fois tous les 5 ans. Et par conséquent, il faut trouver ces possibilités de rénovation de la démocratie libérale et représentative.
Une dernière question très rapide de Thierry. Pour moi, le populisme, dit-il, se définit par le fait de proposer aux citoyens des réponses simples à des questions compliquées. Comment se fait-il que de plus en plus de citoyens y adhèrent ?
Mais c'est effectivement ça, c'est une très bonne question parce que c'est la popularité, si j'ose dire, du populisme. Oui, le populisme, c'est une de ses caractéristiques en dehors de l'opposition peuple-caste, peuple-establishment. C'est aussi cette idée qu'il n'y a pas de problème compliqué, qu'il y a des solutions simples. Et donc la démocratie doit être immédiate, sans médiation et dans l'urgence absolue, alors que les problèmes sont particulièrement compliqués. Mais c'est vrai que dans la période d'exaspération à la fois sociale d'un côté et d'exaspération politique, la défiance politique profonde qui existe dans tous les pays européens, pas simplement en Italie et en France, y compris maintenant en Allemagne par exemple, qui était considéré jusqu'ici comme un des pays modèles de la démocratie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, eh bien ça prouve justement l'ampleur de, alors moi j'appelle pas tellement la crise de la démocratie, mais des mutations de nos démocraties, dans laquelle justement la peuplocratie est en train d'occuper une place de plus en plus importante.
Merci Marc Lazare. Une note de bas de page de Thomas Legrand, le chant de Missia tout à l'heure, c'est 1906.
Oh pardon.
Le Languedoc, c'est bien cela. Thomas Legrand qui est en régie ici dans le studio du 7-9. Voilà donc pour la précision. Et pour l'autre précision, après vous avoir dit merci Marc Lazare, le titre de votre livre Peuplocratie chez Gallimard avec Ilvo Diamanti, il sera en librairie ce jeudi. Merci encore donc d'être venu. Alors là, je vais y arriver, d'être venu ce matin nous rendre visite sur France Inter.